Ne vous êtes-vous jamais demandé quelle forme pouvait prendre la lutte pour l'existence ? Dans le sous-titre de son livre le plus célèbre, Charles Darwin avait utilisé la formule très ramassée de lutte pour l'existence. En anglais, il écrivait « Struggle for life », formule restée célèbre outre-Manche. Dans l'esprit des contemporains de Darwin, puis de beaucoup d'autres, « Struggle for life », cette lutte, se réduisait au seul combat entre individus et donc à la compétition. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est ce que nous allons tenter de voir en commençant par la lutte, justement. Pourquoi devrais-je lutter ? Simplement pour me nourrir, ce qui vaut surtout si je suis un carnivore, ou pour échapper à la mort si je suis un paisible herbivore ? On touche là aux relations éphémères entre proies et prédateurs, chacun luttant pour sa propre survie, que l'on soit un phoque face à un ours blanc ou une mouche face à une araignée. Ces interactions belliqueuses prévalent aussi entre espèces qui convoitent la même ressource. Survolant le bocage à la recherche de campagnols, la buse variable et le milan noir ne se font pas de cadeaux. Donc la première lutte est celle qui s'installe entre espèces différentes dans une relation antagoniste, mais elle n'est pas la seule. Pourquoi devrais-je lutter aussi contre mes congénères ? Regardez votre chat dans son territoire, votre jardin. Si votre chat n'est pas ramolli par le régime de caresses et de nourriture facile que vous lui prodiguez, il est prêt à flanquer une peignée à un intrus. Mais pourquoi ? Puisque justement, il est en principe bien nourri, logé et cajolé. Tout bêtement, parce qu'il a hérité de son ancêtre sauvage la nécessité de défendre son beefsteak. Et cette attitude prévaut aussi chez de nombreux carnivores. Plus les proies sont rares ou difficiles à attraper, plus je dois dépenser d'énergie pour m'en procurer une, et moins je vais tolérer la présence d'un concurrent fût-il de mon espèce. Comme les membres d'une même espèce sollicitent exactement les mêmes ressources, nous avons là l'origine de la compétition entre congénères. Cette compétition les amène à défendre un territoire, ce qui revient à s'approprier les ressources de ce territoire. Tout comme votre chat, un renard défendra un territoire dont la superficie est inversement proportionnelle à sa richesse en ressources. Autrement dit, plus il y aura de ressources, plus le territoire sera petit. D'un point de vue pratique, il défend simplement les ressources nécessaires à sa survie. Outre les ressources, territoire et nourriture qui s'y trouvent, un autre bon motif de conflit est l'accès à la reproduction. Trouver un partenaire sexuel est un obstacle à surmonter. Susciter son attention en est un autre. S'assurer d'un minimum de permanence du lien pour une reproduction réussie en est un troisième. Quelle débauche d'énergie ! Dans de nombreux cas, notamment chez les mammifères et les oiseaux, cette affaire tourne à la lutte farouche. On parle de sélection intrasexuelle, puisqu'il y a compétition entre individus d'un même sexe pour accéder au sexe opposé. L'image classique est celle du brame du cerf en automne, lorsque les grands et robustes dicors s'affrontent bruyamment dans la forêt en poussant des cris rauques. Mais pourquoi lutter entre congénères alors qu'il y a en gros autant de mâles que de femelles? Ils pourraient peut-être partager au lieu de se battre. Il faut se pencher sur les gènes et sur une théorie qui porte le nom de gène égoïste. Par un abus de langage, on pourrait dire que tout se passe comme si les gènes prenaient le contrôle des organismes pour leur propre intérêt, celui de se perpétuer dans les générations à venir. Évidemment, les gènes n'ont aucune intentionnalité. Ne me faites pas dire que je prête des intentions aux gènes et que je considère les gènes comme étant des choses douées de prévision et de capacité à se projeter sur l'avenir. Revenons sur le combat entre deux grands cerfs mâles. Le vainqueur accédera à un harem de biche et transmettra ses gènes à une descendance nombreuse. Les gènes du vaincu et l'individu qui leur sert de réceptacle devront aller tenter leur chance ailleurs ou bien revenir l'année prochaine pour voir si ça marche mieux. La quantité de ressources qu'un cerf dépense chaque année pour se doter de bois encombrants ne sert finalement qu'à accroître la probabilité que ces gènes se perpétuent. Imaginons un cerf qui économiserait sur ses bois, l'individu se porterait certainement mieux. Mais ce ne serait pas bon pour ces gènes, dont le lignage s'interromprait, et ces gros égoïstes qui manipulent le cerf seraient bien déçus. Et malgré tout, si la collaboration était un chemin intéressant. On peut évoquer les loups, Canis lupus, qui associent leurs efforts pour chasser en meute. Les loups parviennent à tuer en groupe des proies qu'ils ne pourraient capturer seuls. En moyenne, chaque loup bénéficie de plus de ressources en coopérant qu'il n'en aurait eu en chassant tout seul. Et on va retrouver le même schéma chez les lions ou les orques. Je m'en rappelle d'ailleurs à Crozet, puisque j'ai eu la chance d'aller dans l'île de Crozet, dans le sud de l'océan Indien. On voyait des orques, à peu près à midi d'ailleurs, qui se regroupaient et qui chassaient en meute les manchots qui avaient la malencontreuse idée d'aller se baigner au moment où les orques avaient envie de manger. Et on voyait très très bien la collaboration entre ces orques qui coopéraient parfaitement bien entre eux pour traquer ces pauvres manchots. Mais il y a un mais. Le système coopératif fonctionne le plus souvent sur la base d'une hiérarchie, c'est-à-dire d'un ordre, un petit peu comme à l'armée. Si la chasse est coopérative, le moment du repas est souvent beaucoup moins coopératif. Il est même compétitif, il est réglementé. Et chez les loups, le couple fondateur est dominant. Et ce couple a un accès privilégié à la proie, lorsque celle-ci, elle est morte et donc prête à consommer. Il mange en premier et il mange les meilleurs morceaux. Donc on touche là à une forme de société animale, avec une hiérarchie. Quant au loup collaborateur, qui est non dominant, il doit se soumettre ou il doit partir. Et s'il se soumet, il est au service du couple dominant et de la meute, et donc il ne transmettra pas ses gènes. Donc une nouvelle question, c'est jusqu'à quel sacrifice peut aller la coopération ? Prenons un autre exemple, celui des chiens de prairie. Vous savez, ces petits mammifères rongeurs qui vivent en bande dans les prairies d'Amérique du Nord. Ils sont un petit peu similaires aux marmottes de nos alpages, et comme les marmottes, les chiens de prairie sont la proie des rapaces. Alors pour leur échapper, pendant que ses copains sont en train de se régaler de bonne herbe tendre, il y a un individu qui fait le guet, il est dressé en appui sur ses pattes arrière, et pendant ce temps, évidemment, il ne se nourrit pas. Si une menace survient, il va pousser un cri strident, alerter ses congénères, et tout le monde va se ruer sur les terriers, mais le guetteur, il risque d'attirer l'attention du rapace et d'être finalement la proie numéro un. Certains guetteurs vont même plus loin, en attirant volontairement l'attention du prédateur. Alors, en faisant ça, évidemment, ils sauvent l'ensemble du groupe, mais ils prennent le risque d'y laisser leur peau, puisque le prédateur va vraiment se précipiter sur eux. C'est complètement contre-intuitif, vu de la fenêtre d'un individu, et même de la fenêtre de ses gènes, ces fameux égoïstes, puisque si l'individu est mangé, s'il est dévoré, ces gènes ne se transmettront pas non plus. Quoique, je vais tenter de vous expliquer. Si les gènes éclairaient quand même ce sacrifice consenti. Ce qui est sûr, c'est que l'individu qui court le risque de se signaler comme une proie prend celui de ne jamais transmettre ses gènes à la génération suivante. Pareil pour le loup qui accepte de se soumettre. Mais là encore, rien n'est totalement simple. En effet, dans un groupe, les individus sont souvent apparentés. On y trouve des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des neveux, des nièces, et ainsi de suite. Or, en gros, vous partagez 50% de vos gènes avec un membre de votre fratrie, une sœur ou un frère, et encore 25% avec un neveu, une nièce, un oncle ou une tante. Donc celui qui se sacrifie, sacrifice qui n'est pas certain d'ailleurs, peut contribuer à sauver plusieurs autres individus auxquels il est apparenté. Indirectement, par procuration en quelque sorte, il préserve les gènes de son lignage. C'est ce mécanisme qui explique que des comportements altruistes aient pu être sélectionnés. Ce comportement a-t-il des limites ? La réponse est oui. Lorsqu'un groupe coopératif exploite une ressource stable et pérenne, tout va bien. La cohésion intra-groupe à l'intérieur du groupe fonctionne et ouvre la porte à des comportements altruistes pouvant aller jusqu'au sacrifice de certains individus. Mais que ce groupe en croise un autre, lui-même cohésif en interne, avec une forte cohésion entre ces individus. Des individus en quête des mêmes ressources. Alors là, rien ne va plus. Le point de friction entre coopération et compétition peut aboutir à un conflit intergroupe. Quand les groupes sont constitués d'Homo sapiens, de nous, on parle de guerre. La guerre tire son origine d'une double capacité des animaux sociaux et territoriaux à pratiquer à la fois la coopération et la compétition. C'est parce que nous coopérons avec nos voisins, les autres personnes qui habitent un pays par exemple, que nous pouvons être en conflit avec un autre groupe d'un autre pays où il y a une coopération également entre voisins de cet autre pays. D'une manière plus surprenante, des fourmis n'hésitent pas à faire la guerre à d'autres fourmis, et cela de manière massive. Cet exemple a été documenté. Et cette guerre des fourmis implique des centaines ou des milliers d'individus. Simplement, cela concerne souvent des espèces différentes. A l'inverse, l'altruisme peut-il aller jusqu'à concerner une autre espèce ? La réponse est « c'est possible ». Chez le républicain social, qui est un petit oiseau passereau du sud-ouest de l'Afrique, les individus construisent collectivement des nids géants pouvant mesurer plus de 7 mètres et peser plus d'une tonne, vous imaginez ? Ces nids à plusieurs chambres peuvent héberger jusqu'à 500 oiseaux et constituent une protection contre les températures extrêmes du désert du Kalahari. Lorsque les nuits sont fraîches, les chambres centrales du nid gardent la chaleur, c'est là que les oiseaux dorment. Le jour, ces chambres internes sont plus fraîches que les chambres périphériques, qui permettent quand même aux oiseaux de se tenir à l'ombre. Tous les oiseaux participent à la construction et à l'entretien du nid. Et il y a un système qui évite un petit peu les tricheurs, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui ont un rôle de superviseur, qui va consister à punir ceux qui seraient tentés de ne pas entretenir le nid. Et il arrive même que d'autres espèces viennent profiter de ces nids HLM sans en être chassées. D'ailleurs, il existe de nombreuses interactions entre espèces, des interactions bénéfiques que l'on qualifie de symbiose mutualiste, mais là, ça serait une autre histoire, un petit peu longue à vous raconter, où les espèces coopèrent entre elles, entre espèces différentes. Finalement, les relations entre les êtres vivants sont complexes. La sélection naturelle prend bien des formes, autant de formes qu'il y a de contraintes qui s'imposent aux êtres vivants, conditionnant leur survie et leur reproduction. Il s'agit de se cacher, il s'agit d'attirer le partenaire sexuel, de se défendre, de trouver des ressources, de protéger sa descendance, et assez souvent, finalement, de coopérer. Une lecture rapide des travaux de Darwin pourrait amener à croire que la sélection naturelle est synonyme de compétition, et seulement de compétition. Mais comme nous venons de le voir avec de multiples exemples, les choses sont plus compliquées que cela. Donc, struggle for life, sans doute, mais pas toujours. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charlotte Roux.